VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition spéciale en ce jeudi 2 février 2017, consacrée en grande partie à la mort de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, à l'âge de 84 ans, hier à Bruxelles. Au micro, Idrissa Seludia. Bonjour. Au cours de sa vie politique, Étienne Tshisekedi a donné de nombreuses interviews à VOA. Morceau choisi dans cet extrait du 17 novembre 2011, en pleine campagne électorale pour la présidentielle, Nicolas Pinault avait rencontré le leader de l'UDPS à Bukavu.
Ça, c'est le peuple congolais qui est souverain, qui doit prendre ses responsabilités. Je l'ai appelé à prendre ses responsabilités, à se mobiliser pour aller faire comprendre à M. Mende que c'est trop tard. Ce qu'il fait là-bas, ça ne sert plus à rien. C'est une guerre d'arrière-garde. Donc, quand une masse se mobilise pacifiquement pour aller faire comprendre à un petit dictateur de quoi que le changement est arrivé, ce n'est pas faire appel à la violence, ce n'est pas demander au peuple de prendre les armes ou les choses, non, d'aller tout simplement pacifiquement faire comprendre à M. Bende qu'il n'est plus à sa place, c'est tout. Par contre, c'est que cette histoire de que j'ai appelé à la violence encore pour le Makala, encore une fois, c'est ridicule. Parce que nos combattants, étant donné les irrégularités, le refus manifeste de M. Mulunda d'organiser un processus libre et transparent, nous avons, notre peuple a le droit d'utiliser la seule arme qu'il a, c'est la mobilisation. Il s'est mobilisé pour pouvoir faire pression sur M. Mulunda pour assurer un processus démocratique réellement transparent. Quelle réaction? La réaction de la fameuse autorité, c'est quoi? Tuer, torturer, arrêter. Voilà. Ils ont, en un mois, ils ont tué 7 de nos combattants comme ça, manifestants, pacifiques.
C'était Étienne Tshisekedi le 17 novembre 2011 à Bukavu. Voici comment Bruno Tshibala, numéro 2 de l'UDPS, a confirmé à Eddy Sango la mort d'Étienne Tshisekedi.
Malheureusement, je confirme qu'effectivement, le président est décédé aujourd'hui aux alentours des 17h.
Il est parti de Kinshasa sur ce pied pour juste un contrôle. Mais qu'est-ce qu'il passé? Est-ce que sa situation s'était entre-temps dégradée?
Il est parti consulter son médecin à Bruxelles où il était suivi. Le premier examen était bon. Il a suivi un check-up général, mais au moment où il avait été demandé d'observer un repos, d'une manière surprenante, il a succombé. Et donc, je confirme que le président de l'UDPS, du Conseil de du Rassemblement, a rendu l'âme aux alentours de 17h.
Qu'est-ce que disent les médecins? Est-ce qu'ils ont fait un diagnostic pour savoir quelles sont les raisons de sa mort?
Nous avons, à ce stade, l'information du décès, mais la pathologie qui est à la base de ce décès n'est pas encore bien révélée. Dans les jours qui suivent, nous saurons effectivement qu'est-ce qui n'a pas pu marcher jusqu'à entraîner sa mort.
Il meurt au moment où les tractations pour la mise en application du dialogue vers la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact sur ces tractations?
La mort d'un grand leader, la trempe du président Tshisekedi, ne pourrait qu'avoir un impact sur non seulement les tractations pour parvenir à finaliser l'accord du 31 décembre, mais aussi sur l'avenir du pays. Mais nous pensons que les uns et les autres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mériter de la patrie, faire en sorte que l'amour du président serve de leçon pour servir la patrie.
Ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, mais quel sera l'avenir du parti après lui, la succession est autre.
Il est tout à fait logique que l'on se pose des questions sur l'avenir du parti après la disparition du président, qui a été l'un des grands artisans de sa fondation, de son fonctionnement. Mais nous pensons que tout le monde se mettra ensemble. L'UDP s'est battu pour un idéal, pour des grandes valeurs, et au nom de ces mêmes valeurs, nous allons resserrer les rangs autour du noble sujet du président pour aller de l'avant.
C'était Bruno Tshibala, numéro 2 de l'UDPS. Revenons maintenant sur la vie d'Étienne Tshisekedi avec Nicolas Pinault.
Étienne Tshisekedi voit le jour à Luluabourg, dans ce qui est alors le Congo belge. Nous sommes le 14 décembre 1932. La ville s'appellera plus tard Kananga, dans le Kasaï. Celui qui sera le premier diplômé en droit du Congo soutient le coup d'État de Mobutu en septembre 1960. Il fait partie du collège des commissaires généraux mis en place pour éjecter le gouvernement de Patrice Lumumba. Dans les années 60, Tshisekedi sera plusieurs fois ministre sous Mobutu et va même jusqu'à soutenir la pendaison publique d'opposants. Tshisekedi et Mobutu en fonde ensuite le mouvement populaire de la Révolution, dont Étienne Tshisekedi deviendra le premier secrétaire de ce parti unique. Ce n'est que 20 ans plus tard, en décembre 1980, qu'Étienne Tshisekedi devient opposant et dénonce le régime prédateur de Mobutu. En 1982, Tshisekedi crée l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, un parti qui réussit très vite à élargir son audience au-delà des Kassai. En 1990, Tshisekedi n'est plus assigné à résidence à Limété et l'UDPS peut enfin agir au grand jour. En août 92, au terme de la conférence nationale, Tshisekedi est même élu premier ministre de Mobutu, mais la cohabitation ne dure que 7 mois. En 1997, à la chute de Mobutu, Tshitshi pense son heure venue, mais le nouveau maître du Congo, Laurent Désiré Kabila, ne l'entend pas de cet avis. Il envoie le sphinx de Limété dans son Kassai natal. En juin 2006, Tshisekedi boycotte les premières élections pluralistes et dénonce la mainmise occidentale sur le scrutin. 5 ans plus tard, en 2011, face à un scrutin présidentiel à un tour, Joseph Kabila est donné gagnant de ce scrutin dont l'Union européenne dénoncera plus tard les fraudes et irrégularités. Tshisekedi, lui, ne reconnaîtra jamais ces résultats. La présidentielle de 2016 n'ayant pas eu lieu, la majorité et l'opposition ont signé un accord politique le 31 décembre dernier. Tshisekedi avait été désigné pour piloter le comité de suivi d'application de ces accords. Il n'en aura pas l'opportunité et la République démocratique du Congo plonge dans une grande période d'incertitude. Tshisekedi s'en va sans avoir vu la première transition pacifique de l'histoire politique du pays.
Merci Nicolas. Augustin Kabeya a été le porte-parole d'Étienne Tshisekedi. Voici comment il a réagi à sa mort.
C'est quelqu'un qui s'était beaucoup donné pour le Congo. Il avait un grand souci sur le pays. Il devait voyager depuis le 10 décembre de l'année dernière, mais il avait beaucoup accordé l'importance aux problèmes du pays. Bon, compte tenu de tous ces retards-là, l'Éternel a décidé autrement. Et je pense que dans les heures qui suivent, le parti va se réunir pour préparer le rapatriement du corps. Je suis un peu très touché.
C'était Augustin Kabeya, visiblement bouleversé par la mort de M. Tshisekedi. Même sentiment chez son compagnon de longue date, Maître Joseph Mukendi Wamulumba, qui se promet de poursuivre son combat pour rendre hommage à sa mémoire.
Cette disparition, sur le plan personnel, je peux dire que c'est mon père, parce que c'est en politique, je suis vraiment profondément bouleversé. Mais dans ce bouleversement, je suis aussi plein d'espoir parce qu'il est mort après l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord est devenu irrévocable. Et j'ai, malgré la tristesse, le sentiment qu'il a mis notre pays sur les rails. Et nous ne pouvons qu'aller dans la direction. Ce qui fait que, dans cette tristesse, nous devons l'honorer d'aller de l'avant, d'être debout, d'aller de l'avant pour parfaire le chemin de la paix, cette paix pour laquelle il a vécu tout ce temps, cette paix pour laquelle il a sacrifié sa famille, il a sacrifié tous les biens matériels et pour lesquels il vient de s'offrir lui-même. Et je pense que devant cela, nous avons le devoir de pouvoir aller de l'avant, de continuer, de le pleurer dignement, mais de faire le travail qu'il a commencé et qui permettra à notre pays d'être debout.
Est-ce que Étienne Tshisekedi se battait seulement pour le pouvoir parce qu'il avait eu l'occasion de prendre le pouvoir plusieurs fois au cours de l'histoire, depuis Mobutu, plusieurs fois?
Effectivement, le grand problème, c'est que M. Étienne Tshisekedi se battait avant tout pour l'idéal. Parce que si c'était pour le pouvoir, à plusieurs occasions, on lui a donné la possibilité de prendre le pouvoir pour le pouvoir, il avait refusé. Et son grand problème, c'était le changement, c'était la paix de cœur, c'était le rayonnement du Congo et la vraie démocratie. Et c'est pour ces valeurs-là qu'il est mort. Et ce sont ces valeurs-là qui sont vivantes, qui nous permettent, nous les Congolais, dans la tristesse, de parler avec force. Dire que notre papa est mort, mais notre papa est vivant parce qu'il nous a laissé des valeurs qui nous permettent d'aller de l'avant, de transformer ce pays comme nous, il avait toujours rêvé qu'il soit.
Est-ce que l'UDPS saura porter son héritage plus en avant?
Certainement. Déjà, depuis son retour au mois de juillet, il avait commencé un grand travail de rassemblement qui porte déjà les fruits. Et dès demain, les instances dirigeantes de l'UDPS vont pouvoir reprendre la situation en main pour pouvoir continuer le travail titanesque que le patriarche a déjà mis sur les rails et qui nous permettra donc d'aller de l'avant. Il suffit seulement de pousser.
Le vieux, comme certains l'appellent, ou bien le sphinx de Limété, expliquez cet attachement que les Congolais avaient vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi.
Oui, c'est vrai, tous ces mots-là, le sphinx, le leader Maximo, eh bien, le leader Maximo n'est pas là, mais il est dans le cœur de tous les Congolais, même ceux qui, pour des raisons idéologiques, n'étaient pas de son côté. Il le considérait comme une personnalité. Je pense qu'en ce moment, plus qu'un leader politique, ce sont les valeurs qu'il portait, les valeurs pour lesquelles il s'est battu, les valeurs pour lesquelles il s'est sacrifié. Ça, c'est important. Il nous a donné un exemple de sacrifice rare dans le monde. Et je pense que devant cette immensité, toutes les personnes ont le devoir de pouvoir être derrière ces vidéos, derrière ces valeurs pour que le pays aille de l'avant.
C'était Maître Joseph Mukendi wa Mulumba, compagnon de route de Étienne Tshisekedi. Des militants de l'UDPS ont vite gagné la permanence de leur parti pour faire le deuil dès qu'ils ont appris la mort de leur leader, mais certains qui, selon la police, essayaient de troubler l'ordre public ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les détails sur place avec Kerry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Aussitôt après avoir appris cette terrible nouvelle, une centaine de militants de l'UDPS s'est rendue à la permanence du parti dans la commune de Limété. Beaucoup voulaient surtout certifier cette information qui a très vite été répandue dans les rues de Kinshasa comme une traînée de poudre. Sur place se trouvaient le secrétaire général de l'UDPS, Jama Kabund, et Félix Tshisekedi, fils du disparu qu'accompagnait José Ndundo, Pierre Lumbi du G7 ou encore Délice Essanga de l'Envol, des plateformes du rassemblement que dirigeait jusqu'à sa mort Étienne Tshisekedi. Déception, pleurs et émotions étaient très visibles parmi les militants de l'UDPS dont le nombre croissait au fil des minutes malgré la fine pluie qui arrosait la capitale. Certains d'entre eux, pris de colère, sont même allés barricader la route avant de se faire disperser par la police à coups de gaz lacrymogènes. La famille biologique d'Étienne Tshisekedi, les amis et proches de la famille se sont eux retrouvés ce même soir du 1er février dans la résidence de Félix Tshisekedi pour faire le deuil. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pour sa part, Eddy Issango a recueilli la réaction d'Henri Mova Sakani, leader du PPRD, le parti au pouvoir en RDC.
C'est une très grande perte pour la nation congolaise, un gros chagrin pour pas seulement le milieu politique, mais Tshisekedi est emblématique. C'est un politique qui aura marqué pratiquement toute la période du Congo indépendant. Il est sur la scène politique depuis très très longtemps. Et il a structuré dans une large non seulement la position congolaise, mais aussi la politique congolaise. Je crois que si ce que dit mort, la politique ne se fera plus de la même manière. Il faut avouer parce que c'est la fin d'une époque. ça il faut vous dire, c'est que parmi les derniers les personnalités qui ont marqué la politique du Congo de la RDC indépendante. Et nous exprimons à cet égard beaucoup de regrets. Une pensée pour sa famille, son épouse Mama Marc, pour ses enfants et ses militants, ses nombreux militants de son parti.
Vous dites que la politique ne se fera plus de la même manière. Il est parti, il est mort, alors que maintenant les tractations pour la mise en application de l'accord du 31 décembre tendent vers la fin. Il y a quelques petites complications. Est-ce que vous pensez qu'avec sa mort, la situation permettra à ce qu'on puisse régler ces problèmes qui restent ?
Pour le moment, c'est l'émotion qui prévaut. C'est la perte d'un être important. On va entendre d'abord à ça. Lorsque je parle que la politique serait autrement, parce qu'il n'aura pas été quand même un personnage structurant, non seulement pour l'opposition, mais aussi la politique s'est faite quand même d'une certaine manière. De sa présence, son charisme et sa personnalité auront marqué quand même d'une certaine coloration la politique congolaise en général. Qu'il soit absent, je crois que les acteurs de son camp, même de son camp, se comportent de la même manière. Et j'estime que c'est la fin d'une époque, il faut l'avouer.
Opposant de longue date, il était quand même aussi les contrepoids du pouvoir actuel. Est-ce que vous pensez qu'avec sa disparition, un déséquilibre ne va pas se créer, vous qui êtes du parti au pouvoir ?
De toute façon, il restera irremplaçable par sa personnalité, sa force de personnalité, la durée de vie dans l'opposition.
C'était Henri Mova Sakani, leader du PPRD, le parti au pouvoir en RDC. Pour comprendre l'éventuel avenir de l'UDPS, le parti de Étienne Tshisekedi à la suite du processus politique en RDC, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles un consultant diplomatique, Henri-Désiré Nzuzi.
L'avenir se décidera à l'aune de la capacité des uns et des autres de faire le deuil de la disparition d'Étienne Tshisekedi, mais surtout de pouvoir se dépasser dans l'intérêt bien compris d'un parti qui a vocation, bien évidemment, à survivre à son fondateur.
Il était malade depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Est-ce qu'il n'aurait pas préparé sa succession ou désigné son successeur ?
Cela avait été le cas, ça se saurait. Mais comme dans toute famille politique, il est légitime que des ambitions s'expriment. Mais c'est vrai que de son vivant, il n'a pas formellement désigné celui qui aurait cette immense responsabilité de lui succéder. C'est pour ça d'ailleurs que je fais appel à la sagesse des uns et des autres pour privilégier justement la survie d'un parti plutôt que de l'exposer à des querelles internes qui pourraient précipiter sa disparition.
Il n'avait pas encore pris sa retraite, il allait même jouer un rôle majeur dans la transition politique avant les élections présidentielles de cette année. Quel est l'avenir de la démocratie en RDC sans Tshisekedi ?
Je pense que, ayant été d'une certaine manière à la manœuvre, mais aussi à l'origine, en tout cas, de l'éveil de conscience des Congolais pour justement l'apport démocratique dans ce pays, son héritage devrait être sans trop de difficultés perpétué. Je pense que les Congolais sont aujourd'hui suffisamment mûrs que pour pouvoir créer les conditions d'une consolidation de ce processus démocratique qui est encore jeune, qui vit parfois, je dirais, des moments difficiles, hein, compte tenu du comportement de certains acteurs politiques, mais c'est inscrit aujourd'hui dans les mentalités, dans les consciences. Et donc, à ce niveau-là, je ne me fais pas beaucoup de soucis. Il faudra simplement veiller que ces héritiers politiques puissent perpétuer sa pensée, sa vision, afin précisément qu'elle puisse s'installer durablement. Mais aujourd'hui, les Congolais ont atteint cette maturité qui font qu'ils peuvent aujourd'hui se réapproprier un processus qui, d'une certaine manière, leur permettrait d'envisager des lendemains meilleurs.
Le vieux Tshitshi n'est plus, mais quelle est la suite maintenant du processus politique ?
Il va falloir quand même respecter la période de deuil, donc je pense que des funérailles nationales lui seront consacrées. Une fois cette ce moment de recueillement passé, il faudra effectivement revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la suite du processus. On sait qu'un accord a été signé, mais que malheureusement, il ne peut être exécuté ou mis en œuvre faute de signature de l'arrangement particulier. Et donc, il va falloir s'assurer que la disparition d'Étienne Tshisekedi ne remet pas en cause le respect des engagements qui ont été pris. Je pense néanmoins que au niveau de la présidence du comité de suivi, certaines ambitions vont s'exprimer, et je pense que c'est tout à fait légitime. S'agissant de la primature, là, je pense que là aussi le jeu restera davantage ouvert, mais on peut considérer aussi d'une certaine manière que compte tenu de la personnalité forte qu'incarnait Étienne Tshisekedi, certains pourraient être pensés, ou en tout cas pourraient être tentés de croire que les choses seront, disons, beaucoup moins compliquées. Et je pense que c'est un pari que je ne prendrai pas le risque de prendre, si je puis m'exprimer ainsi, car la politique congolaise est suffisamment aléatoire et pleine de surprises que pour ne pas tomber dans le piège de prédictions.
C'était Henri Désiré Nzouzi. Dans notre prochaine édition, vous entendrez l'écrivain Fidel Lumeya, un analyste politique congolais basé ici aux États-Unis. Merci à Eddie Isango, Eric Manirakiza, Nicolas Pino, Idriss Fall et Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Tout de suite, le journal de la CAN, présenté par Nicolas Pino.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Immense déception à Libreville pour le Burkina Faso. Les étalons sont passés tout proche de la qualification au stade de l'amitié. Après une première période équilibrée, ce sont les Pharaons qui ouvrent le score à la 66e minute de jeu grâce à l'incontournable Salah, le joueur de l'AS Rome. Les étalons partent alors à l'assaut du but égyptien et sont récompensés par Aristide Bansé qui égalise un but partout. Les deux équipes en resteront là jusqu'à la terrible épreuve des tirs au but et ce sont les Pharaons qui se montrent les plus adroits et Samel Haradi stoppe notamment le pénalty du jeune gardien burkinabé de 20 ans Hervé Kouadio Kofi pour qualifier les Pharaons en finale. Le score final 1 but partout, 4 tirs au but à 3 pour l'Égypte. Le compte rendu et les réactions d'après-match avec Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon.
Les Pharaons ont misé sur l'expérience de leur gardien de but et capitaine Essam Kamal El Hadary qui a repoussé les pénaltys de Kouakou Hervé Kofi et de Bertrand Traoré. Le coach Hector Cooper se dit satisfait de la qualification des siens, même si les Burkinabés ont mieux joué.
Burkina Faso estaba mejor que nosotros, se lo veía mejor que nosotros. Bueno, llegamos a la tanda de penaltis.
Elle a été même d'ailleurs meilleure que nous, surtout en deuxième mi-temps où elle a fait preuve de beaucoup d'agressivité. Quant à nous, nous avons éprouvé beaucoup de fatigue et le souhait c'était d'attendre l'épreuve des tirs au but parce que c'est une épreuve dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer.
Le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a félicité les Égyptiens, mais estime que ses poulains auraient pu gagner la partie.
Mon attaquant va pour la surface, le défenseur coupe la balle avec la main. Monsieur l'arbitre, c'est un grand arbitre, souffle la faute. Après 30 secondes, après l'insistance de l'auxiliaire, il donne pas un coup de carton. C'est pas normal qu'il y ait une passe, la loi dit, un passe entre un adversaire et l'autre. La balle est coupée avec la main, obligé, carton, pas de carton.
Le match pour la troisième place sera le plus difficile pour les étalons, a prévenu Paulo Duarte. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
À suivre ce soir à Franceville, l'autre demi-finale Ghana-Cameroun. Modèle de régularité depuis près d'une décennie mais jamais sacré, le Ghana, déjà finaliste en 2015, va tenter de faire aussi bien lors de cette CAN 2017. Mais ce ne sera pas facile, ils font face à une surprenante équipe du Cameroun. Le trophée qui fuit les Black Stars depuis 1982, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe.
Bonjour. Les confrontations directes ont plutôt été rares entre les deux mastodontes de la compétition, le Ghana et le Cameroun, qui se retrouvent ce jeudi soir à Franceville pour le compte des demi-finales de la CAN. Si un score nul a sanctionné la première rencontre en match de poule lors de l'édition 2000 au Ghana, Le véritable match référence remonte à la demi-finale de la CAN 2008, toujours en terre ghanéenne, avec une victoire sur le fil du Cameroun par un but tardif d'un con qui envoya prématurément au lit les bouillants supporters des Black Stars. Pour cette troisième apparition, les données sont les mêmes qu'en 2008. D'un côté, il y a une équipe ghanéenne homogène, au sommet de son art et composée de joueurs confirmés comme les frères Ayou, Boy, Asamoah, Gian ou Atsu, aussi solide que celle des Essiennes et des Montari en 2008. En face, le Cameroun présente une formation en grande reconstruction autour du rescapé Moukandjo, dont le rôle rappelle celui du convalescent Samuel Eto'o il y a 9 ans. Si l'histoire ne se répète pas toujours, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Le Ghana va sûrement commencer la rencontre en équipe confirmée, c'est-à-dire prendre le jeu à son compte, là où les jeunes Camerounais, désireux d'écrire leur propre histoire, n'hésiteront pas à renouveler les mêmes recettes qui leur ont permis de s'emparer du scalp des Lions sénégalais en quart de finale. La présence sur le banc de touche de deux maîtres tacticiens, comme le Belge Hugo Broos et l'Israélien Abraham Grant, laisse penser que le coaching sera déterminant. Mais pourvu qu'une fois de plus, l'enjeu ne tue pas le jeu. À demain.
Voilà, c'est la fin de ce journal de la CAN sur notre antenne. Prochain point sur le tournoi, ce sera ce soir sur VOA Afrique. En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Merci Nicolas. Avant de se séparer, Jean-Roger Bion nous résume rapidement le reste de l'actualité. Jean-Roger.
Bonjour Idrissa. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. On commence par la Gambie. 10 des 18 ministres du nouveau gouvernement, dont une femme, ont prêté serment hier, 6 jours après le retour dans le pays du président Adama Barrow. Parmi les principaux ministres figurent 2 avocats de formation aux affaires étrangères, le chef historique de l'opposition, Yahya Jammeh et Ousseynou Darbo, et à l'intérieur, le conseiller spécial de M. Barrow, Mai Fati. Amadou Sané, ancien trésorier du parti d'opposition, a obtenu le portefeuille de l'économie et des finances. Une dirigeante de l'opposition à M. Jammeh, Aissatou Touré, est nommée ministre du Commerce et de l'Intégration régionale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé mercredi au président américain Donald Trump de retirer son décret migratoire qui ferme temporairement les frontières des États-Unis aux réfugiés et aux ressortissants de 7 pays, estimant que ces mesures n'empêcheraient pas les terroristes de s'infiltrer. Ce décret qui suspend l'entrée aux États-Unis des réfugiés pendant 3 mois et des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen, pendant 4 mois, a suscité un tollé à travers le monde. En ce qui concerne les Syriens, ils sont interdits d'entrer sans limitation de durée. Un juge californien est à son tour entré dans la vague de décisions de justice défiant le décret migratoire de Donald Trump en ordonnant qu'une 30aine de Yéménites munis de visas valides soient autorisés à entrer aux États-Unis. Le juge fédéral André Birot a dicté cette ordonnance mardi après le dépôt d'un recours présenté le même jour par 28 plaignants, dont plusieurs Yéménites bloqués en transit à Djibouti, en Afrique, où ils faisaient escale en route pour les États-Unis. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays ravagé par la guerre. La décision du juge Birot suit celle de plusieurs magistrats qui ont tenté à travers les États-Unis, de New York jusqu'à l'État de Washington à l'Ouest, de contrecarrer le décret signé vendredi par le président Donald Trump et interdisant pour 3 mois l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, dont le Yémen, ainsi que de tous les réfugiés. Et puis l'ex-PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, a pris mercredi les rênes de la diplomatie américaine, mais ce capitaine d'industrie, proche du président russe Vladimir Poutine, arrive dans un département d'État en quasi-rébellion contre le chef de l'exécutif américain. Ce Texan, âgé de 64 ans, dont 41 passé au sein du géant pétrolier américain, est dorénavant la voix et le visage de la première puissance mondiale à l'étranger, après que le président Donald Trump, son vice-président Mike Pence et un vote du Sénat l'ont officiellement confirmé hier dans ses fonctions.
Bien, merci beaucoup Jean-Roger Bion. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Daniel Brown pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.